Et bonjour à tous, j'ai oublié de mettre mon casque. Ça y est, c'est fait, le casque est là. Est-ce que j'entends bien? Oui, c'est bon, c'est réglé, vous êtes bien sur le mug. Nous sommes vendredi, j'ai donné le signal du départ. Vendredi, un mug plus libre, un mug libéré, un mug plus tourné vers vous et vos questions. Nous sommes le... on va parler pas mal du Vision Pro ce matin et bien sûr de plein d'autres news tech de la semaine. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien? Certains toujours dans leur manteau blanc de neige. La neige a tenu à Paris. Il reste quelques traces de neige. Il n'a pas reneigé. Je ne sais pas chez vous. Qu'est-ce qu'après un prout en guise de test son, il est vraiment nécessaire? Vous êtes bien sur le mug. Bah oui. Puis alors, c'est la touche la plus facile sur la table son. Voilà, c'est presque instinctif. Voilà. Pourquoi finalement avoir des effets sonores sophistiqués quand on a un prout? Un prout, c'est un peu la base du dialogue, quoi. Tu fais du ski de fond à Paris? Non, quand même pas, hein. Quand je dis qu'il reste des traces à Paris, c'est ce qui n'a pas été écrasé, fondu. Voilà, il reste quelques traces sur les voitures. Pas assez pour faire du ski de fond. Merci Psylob qui ouvre le bal avec son 37e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est du zbeul. Un grand merci à toi. Il y en a que j'avais pas remercié hier. Damien Boucher, je sais pas si je t'avais remercié. 42e mois d'abonnement. C'est énorme. Parallèle Fiber aussi, son 13e mois d'abonnement. Merci à toi. Merci de Servalou pour ton 10e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Choix de mots douteux après le prout. Oh, les choix de mots douteux, c'est aussi une signature de la chaîne. Il y en a qui ont laissé des traces. Ah, ça y est, c'est parti. Hein. On n'a pas dit que vendredi, c'était scatologie non plus. Hein. Hein, ok, on démarre avec un prout. C'est mal parti. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Merci en tout cas les contributeurs d'essayer de faire démarrer le train de la hype. Le train de la hype arrivera-t-il à sortir le chasse-neige? Le vendredi, pour ceux qui ne connaissent pas, ah oui, alors je dois dire quelque chose, je répéterai dans l'émission. On innove aujourd'hui. On a laissé le live en public sur YouTube, mais on a désactivé le chat. Donc si actuellement vous êtes en train de nous regarder sur YouTube en live, vous ne pouvez pas parler. Mais vous pouvez venir nous parler en nous rejoignant sur Twitch. Pour l'instant, on ne souhaite pas activer les deux chats parce que ça compliquerait quand même la gestion des chats pour des raisons aussi de sécurité. C'est pas une question de liberté d'expression. C'est que voilà, ça obligerait aussi les modérateurs à contrôler les deux chats, moi à lire les deux chats. Ça serait pas... Donc, on l'a laissé ouvert, d'abord pour des raisons techniques, c'est que ça nous obligeait à faire une manip tous les matins, de la repasser en privé, et que je suis vraiment dans un objectif de simplifier les choses en 2024. Hein, il y a plein de process que je cherche à simplifier. Donc, voilà, on va laisser... on va voir comment ça se passe, mais on va laisser la diffusion du live ouvert sur YouTube. Ceux qui ont un YouTube Premium, ça leur permet de le mettre en tâche de fond et d'écouter le mug tranquillement. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas le faire avec Twitch, donc ça peut simplifier les choses pour certains. Voilà. Toujours important de bien donner le ton de son intervention dès le départ, tout à fait. Donc, tu sais, je suis un habitué des grandes conférences. Tim Cook prend des cours chez moi, absolument, absolument. On n'a pas encore entendu de prout dans les keynotes Apple, mais ça ne saurait tarder. Et les pubs sur YouTube? Alors, en vrai, Yves Castel, notre... Éloignons les mythes. Je ne parle pas des insectes. La chaîne YouTube où il y a les replays du mug est zéro monétisée. Donc, peut-être que YouTube passe des pubs. Je ne sais pas si on a activé ou désactivé ça, il faudra que je regarde. Mais en tout cas, on est démonétisé systématiquement pour les simples bonnes raisons. Enfin, notre générique, on l'avait payé, mais il nous le bloque quand même. Enfin, c'est compliqué et ça me saoule de passer du temps à essayer de résoudre ce problème parce que les flux d'argent étaient vraiment minimum, quoi. Je crois que la chaîne, sur 3 mois, a rapporté 40 euros, aurait rapporté 40 euros ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que vous soyez juste au courant que le fait qu'on vous mette le live en disposition en podcast, en replay sur YouTube, etc., ne nous rapporte absolument rien et nous prend un peu de temps. Donc c'est ça que je cherche à automatiser, à rendre plus simple. Voilà. Non, non, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'il ne faut jamais dire jamais, surtout en tech, pour l'instant, le flux principal de live reste Twitch. Voilà, l'expérience live et le fait de pouvoir parler dans le chat, c'est sur Twitch. Donc voilà un petit peu pour les informations techniques. De quoi on va parler ce matin ? Bah déjà, vous savez, le vendredi, c'est aussi réservé à vos questions. Si vous avez des questions, bah tiens, on commence tout de suite avec Mehdi qui a une question. Vos collaborations commerciales, c'est vous qui démarchez ou vous passez par une agence ? On passe par une agence. Alors, cette agence, pour vous dire les choses telles qu'elles sont, l'agence par laquelle on passe, c'est nous qui l'avons fondée. Mais cette agence travaille aussi avec d'autres chaînes YouTube, d'autres influenceurs sur TikTok, sur Instagram, etc. C'est devenu aujourd'hui une agence indépendante, mais qui gère aussi Nowtech. Aujourd'hui, alors, revenons sur le fameux débat, les chaînes YouTube qui travaillent tout seuls. Alors, ça dépend la taille de la chaîne YouTube, mais c'est souvent le premier pas que fait une chaîne YouTube quand elle commence à monétiser et qu'il y a une volonté de vouloir en faire un métier, enfin, un gagne-pain. Une des premières démarches qui est généralement faite, c'est de trouver des intermédiaires commerciaux. Parce que la gestion commerciale d'une chaîne YouTube, trouver les sponsors et surtout gérer les sponsors, vous ne pouvez même pas imaginer le temps que ça prend. Il faut une équipe commerciale. Quelle est la marque des baskets que je porte habituellement ? Ah bah c'est sans surprise. Oh ! Ah ! Non, non, ça va. On est en hiver. Là, elles sont un peu sales. C'est des Tropic Feel, une marque de baskets que j'adore. Je crois qu'on a un lien d'affiliation quelque part, mais je ne sais pas si la modération l'a. C'est des super baskets. Basti, par exemple, nous dit il a un agent et un monteur. Ça vient très vite. Il y a un moment, moi, c'est une grande devise que j'ai dans la vie. Il faut choisir ses batailles. Si tu veux gagner la guerre, il faut choisir ses batailles. Tu ne peux pas mener toutes les batailles de front. Tu t'épuises, tu burn out. Effectivement, déléguer. Alors, je sais qu'il y a un peu ce mythe français de l'homme orchestre qui fait tout seul et qui a plus de mérite que celui qui délègue. Je pense tout le contraire. La capacité à déléguer est quelque chose... Alors, tout le monde n'en est pas capable. Tous les métiers ne l'imposent pas. Toutes les activités ne l'imposent pas. Mais moi, ça a été la grande découverte de ma vie de travailler sur ma capacité à déléguer. C'est pas quelque chose de simple dans le processus créatif. Beaucoup de YouTubeurs ont beaucoup de mal à déléguer leur montage, etc., parce qu'ils ont l'impression que c'est une partie d'eux-mêmes qu'ils abandonnent. Mais moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour tout le monde, mais savoir déléguer, construire une équipe est quelque chose, pour moi, en tout cas, très important. Dans la dernière vidéo, tu parles de Copilot via Siri ou directement Copilot. Non, j'ai directement mis l'app Copilot sur mon bouton action de mon iPhone. Donc, c'est Copilot qui s'ouvre. une agence, elle prend combien de pourcentage en temps normal sur une collaboration? Alors, c'est une grande discussion dans le métier. Il y a un peu un lieu commun, surtout depuis la série 10%, qu'un agent ne doit pas prendre plus de 10% sur les opérations. Dans les faits, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça doit marcher. En fait, pour te donner un peu une réponse de Normand, mais qui est vraie, je le sais parce que je connais le côté aussi de l'agence, ça dépend complètement des dossiers. Un sponsor, il y en a qui sont très faciles à gérer, il y en a qui sont très difficiles, il y en a où je suis obligé d'avoir l'équipe, où on est obligé d'avoir l'équipe commerciale à fond dessus, parce que le client est tatillon, ça demande beaucoup de ressources commerciales. Donc, nous, généralement, on n'aime pas parler en pourcentage quand on travaille avec un influenceur. On aime plutôt lui dire, voilà ce que tu as à gagner. Voilà ce qu'on te propose sur tel ou tel budget. Nous, en tout cas, notre agence, on fonctionne beaucoup comme ça. On signe pas des influenceurs à l'année avec des contrats genre exclusivité. On propose des opérations commerciales. On lui dit, tiens, mon coco, t'as ça à gagner, tu prends ou tu prends pas. Après, en vrai, oui. En fait, ça dépend vraiment. Ça peut tourner entre 40 et 10%. Là aussi, ça dépend du niveau d'implication de l'agence. Qu'est-ce qu'elle fait pour l'influenceur, etc. Donc là, je t'ai donné une réponse super honnête, compliquée, parce que c'est compliqué. Dans la pub, c'est 25%. Yves Castel, pour avoir bossé dans la pub, non. En fait, les pourcentages, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, vraiment, ça dépend ce que l'agence va faire pour toi. Moi qui ai aussi travaillé avec d'autres agences, il y a des agences qui te filent juste le dossier et démerde-toi, quoi. C'est pas une agence à qui j'ai envie de filer plus de 10%. Après, il y a des agences qui travaillent vraiment pour toi, t'aident aussi à grossir ta marque. En fait, c'est vraiment une question de mobilisation de ressources, quoi. Quand tu sens que ton agence mobilise vraiment des ressources derrière toi, in fine, tu vas gagner plus d'argent. Je préfère donner 40% à une agence qui me permet de faire, je sais pas, 500 000 euros de chiffre d'affaires que de donner 10% à une agence qui me fera faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Ouais, c'est variable, mais c'est comme, vous savez, le vieux mythe que tant de vues sur YouTube rapporte tant d'argent, c'est ultra variable. C'est ultra variable. Les commentaires sont désactivés sur YouTube parce qu'on ne peut pas gérer pour l'instant deux flux de commentaires. Donc ce n'est pas une privation de votre liberté d'expression. Vous êtes tout à fait libre de venir vous exprimer sur Twitch. Merci Goons21 pour ton 32e mois d'abonnement et merci Olivier également pour ton 7e mois d'abonnement. Un grand merci à vous, les contributeurs. Peu de gratuit, les tests. Pas trop dur de bosser. En fait, en vrai, l'agence, je m'en occupe peu. J'ai complètement délégué, là, pour le coup, la gestion de l'agence et la gestion commerciale de l'agence. Je l'ai fondée avec un ami, mais c'est lui qui la gère. Bah, le fameux Cédric, dont on vous parle, mais que vous ne connaissez pas. Voilà, vous savez tout. Non, Mehdi, on n'en parle pas trop. On est une agence assez discrète. Si tu es influenceur, TikToker, etc., on te contactera, t'inquiète. Pour l'instant, on n'a pas une stratégie de... Voilà, de mettre ça en grand. Alors, je commence à avoir des questions d'experts comptables ou du fisc. Donc, si vous êtes du fisc, vous me posez les questions directement. Hein, vous savez comment me contacter. Mais je n'en parlerai pas dans le chat, sans mon avocat et mon expert comptable. Non, Copilot, c'est gratuit pour l'instant. Alors, effectivement, Microsoft a lancé une version payante de Copilot avec des fonctionnalités en plus, mais pour l'instant, j'utilise la partie gratuite. Euh, Vous avez entendu parler de la caméra au CES invisible à l'œil nu qui peut se mettre à l'intérieur de n'importe quelle vitre. Oui, c'est pas nouveau hein, aussi, hein, ça. J'en avais déjà entendu parler. Voir ce que ça donne. Effectivement, ça peut poser quand même des problèmes aussi. Merci, Bipascal91. On va regarder un petit peu de manière... Bah, vous savez que le vendredi, c'est... On est un peu relax, mais j'essaie de donner quand même un minimum de structure. Il y a des petites choses dont je voulais parler. Puis, bien évidemment, comme j'ai pas eu le temps de le faire hier, j'aimerais qu'on parle du Vision Pro parce qu'on n'a pas eu le temps de faire l'article hier. Et il y a déjà des réactions de certains journalistes qui sont intéressantes à analyser. Aujourd'hui, c'est la première. Ça va être la première journée de prévente du Vision Pro aux États-Unis exclusivement. Hein, ça nous concerne pas, mais ça nous empêche pas d'en parler. Avant, je voulais juste revenir sur deux trois petites choses que j'ai lues ce matin, que j'ai trouvé intéressant et peut-être pour vous faire réagir sur deux trois petites choses. On apprend que et Google et YouTube vont virer des gens. Donc on est un peu dans la lignée des articles qu'on a depuis 2-3 semaines. En gros, la tech vire du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la tech n'est pas au-dessus de l'économie. Hein. L'économie est plutôt en récession, hein, de manière globale. Stagnation, récession. Qu'il y a des coupes, effectivement, dans les masses salariales pour ces entreprises. On peut quand même se demander, je pense que la question est légitime, ces boîtes qui sont en train de développer énormément l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur fonctionnement, est-ce qu'il y a une causalité aussi ? Je ne pense pas que c'est la première raison. Parce que je pense que quand ton entreprise est rentable, ou en tout cas quand tu atteins tes objectifs financiers avec ton entreprise... Tu vas plutôt te dire l'intelligence artificielle va me permettre d'augmenter ma productivité avec la même masse salariale. Mais quand tu es dans des calculs où il faut diminuer tes coûts de fonctionnement, et c'est le cas pour Twitch, c'est manifestement le cas pour YouTube, on avait parlé aussi d'Amazon Prime Video, etc. C'est pas exclu, effectivement, que certains postes intermédiaires... maintenant que un certain nombre de missions peuvent être accomplies par des intelligences artificielles générationnelles, et je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, je suis en train d'exposer des faits, est-ce que ça peut avoir une influence ? À voir. Ils ne le disent pas publiquement. Oui, oui, Amazon a viré énormément de monde, ouais. Merci beaucoup, le train de hype qui vient de démarrer, c'est magnifique, nous sommes sortis de la congère de neige. Avec le train, merci Pax Magellanis pour tes 100 bits. Merci GBV75 pour ton 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, merci les contributeurs. C'est pas facile de garder secret ce genre de truc. Disons que... De toute façon... Moi, c'est ce que je pense de plus en plus de l'intelligence artificielle générative par rapport à l'emploi. Ça ne supprimera pas des postes entiers. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que l'intelligence artificielle générative est surtout une aide à être plus productif sur certaines choses. Et justement, il y a un article dont j'aimerais parler juste après. Mais ça supprime pas complètement un job. Par contre, effectivement, des jobs intermédiaires, des gens qui assistaient d'autres personnes, qui les aidaient à faire leurs slides, il va y avoir une compression. Une image que je trouve intéressante dans une conférence que j'ai vue, au début du téléphone, le téléphone à l'ancienne, le téléphone qui permettait d'appeler quelqu'un, on avait des armées d'opérateurs, d'opératrices, pour brancher les gens entre eux. Ça se faisait manuellement. Jusqu'à ce qu'on ait des commutateurs automatiques qui permettent de mettre directement en liaison un numéro de téléphone avec un autre. Hein. Il y a une époque avec le téléphone, et pas si lointaine que ça. Je crois que dans les années 50, il y avait encore des opérateurs téléphoniques. On appelait un poste et on disait « Je voudrais le 36 à Asnières. » Vieux sketch célèbre là-dessus. Je crois que c'est le 36 à Asnières. et un opérateur humain, vous mettez en communication. Voilà, c'est typique de ce type de job intermédiaire que la technologie fait disparaître. C'est le 22 à Agnières. Ouais, le 22 à Agnières. Donc, c'est pas nouveau que des technologies fassent disparaître des travaux, des postes intermédiaires. Voilà, donc ça va se passer un peu. La nouveauté, peut-être, c'est que ça va se passer sur des jobs qui étaient considérés comme intellectuels avant, des cols blancs, des postes de service, puisque maintenant, en fait, un ChatGPT, une intelligence artificielle générative, va permettre d'exécuter automatiquement certaines tâches qu'on n'arrivait pas à faire avant sur un ordinateur, quoi. Ah oui, c'était Fernand Reynaud, effectivement. C'est pas de mon époque non plus, hein, Fernand Reynaud. Hein. C'est de l'humoriste noir et blanc. Les jeunes ne savent même pas ce qu'il sait, mais c'est normal. C'est normal qu'on oublie. Tu sais, moi, je discute avec des gens qui connaissent. Yanis n'a jamais vu un Indiana Jones. Mais oui, c'est normal. Ça donne un coup de vieux. Mais aujourd'hui, t'as plein de... Dans la Gen Z et Gen Alpha, il y a des gens qui n'ont jamais vu Star Wars. Alors, je te parle pas de Funès, ils connaissent pas du tout. Ça reste une destruction d'emploi. Oui, non, mais de toute façon, c'est tout le problème. On peut reprendre le cas des opératrices. Les opératrices et les opérateurs ont perdu leur job quand il y a eu des commutateurs automatiques. Ensuite, pour certains d'entre eux, mais peut-être pas tous, ils ont retrouvé d'autres jobs. Il y a eu de la création d'emplois. Le facteur bêta important là-dedans, c'est le laps de temps entre la destruction d'emplois et la création d'emplois de chaque technologie. Moi, ma crainte sur l'intelligence artificielle, c'est pas qu'elle détruise des emplois. Moi, ma crainte avec l'intelligence artificielle, quand je dis 80% des jobs vont être affectés, ma crainte avec l'intelligence artificielle générative au niveau de l'emploi, c'est qu'elle détruise beaucoup plus vite des emplois que le laps de temps qu'il va falloir pour qu'elle en génère, en fait. Basti, t'as jamais vu Star Wars ? Pourtant, Basti, t'es très jeune, mais t'es quand même pas si jeune que ça. On va en parler du Vision Pro, t'as raison, Gabi Siga, on va. Mais avant, je voulais quand même, toujours pour continuer sur l'intelligence artificielle générative, parler de cette news, parce qu'elle est intéressante. L'autrice de Tokyo Dojotu, qui est lauréate du prix Akatagawa, a expliqué qu'elle s'était servie de ChatGPT pour écrire son roman, donc qui a gagné un prix au Japon. C'est un roman futuriste qui a été écrit par le logiciel d'intelligence artificielle générative ChatGPT. Elle dit qu'environ 5% de son livre a été généré, c'est-à-dire qu'elle a généré des phrases de son livre. Elle estime, elle, que ça l'a aidé à libérer son potentiel créatif. Et les réactions, je vous invite à lire l'article. Déjà, elle est courageuse, je trouve, de le dire, parce qu'aujourd'hui, il y avait un autre article que j'ai pas mis ce matin, mais qui est intéressant. 80% des gens qui utilisent ChatGPT ou une intelligence artificielle générative au bureau, le planquent à leur direction, ne le disent pas à leur direction. Que leurs 32 slides magnifiquement faits, ils se sont servis d'une IA générative pour en écrire une partie. Donc, elle a eu effectivement entre guillemets, le courage ou l'inconscience, vu le bad buzz, de dire, bah ouais, je me suis servi de l'intelligence artificielle générative pour écrire mon roman. Globalement, il y a eu du bad buzz. Beaucoup de gens, et d'ailleurs, on le voit dans le titre. Pour moi, c'est une erreur de langage dans le titre. Pas dans le titre, mais dans le premier paragraphe. A été écrit par le logiciel d'intelligence artificielle. Non, elle dit 5%. Bon, elle donne un pourcentage. En fait, les gens disent « Ouais, mais c'est pas elle qui l'a écrit, le livre. » Et je pense que le débat va être vachement là-dessus. Et je vais même aller plus loin. Ce fameux logo qu'on veut imposer sur les images et même le texte. Ce texte, cette image a été générée par de l'intelligence artificielle. Moi, je suis contre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis contre parce que, par exemple, nous, on génère beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle, mais c'est des pourcentages de ce qu'on fait. C'est des pourcentages. La dernière vidéo que j'ai sortie, j'ai l'honnêteté de vous dire qu'une partie, ben, je me suis servi de Copilot pour l'écrire, pour améliorer certaines phrases. Certains pourraient dire, bah, ta vidéo, t'as pas bossé, c'est Copilot qui te l'a généré. Non! Je me suis servi de Copilot comme un outil. Je pourrais dire un pourcentage, mais ce serait au doigt levé. Et 5% de la vidéo a été générée avec Copilot. Voyez, et les images qu'on voit, enfin, par exemple, nos vignettes, à part deux vignettes, aucune n'a été générée à 100% avec une IA. Et quelque part, moi, plus je travaille avec l'IA, moins je vois la différence avec d'autres outils informatiques. Parce que si vous offusquez qu'une autrice utilise ChatGPT pour écrire un roman, j'ai envie de dire, en remontant une centaine d'années en arrière, vous pourrez dire, attendez, mademoiselle ou madame, vous écrivez votre livre avec un traitement de texte. Est-ce que c'est pas un peu triché par rapport à un Honoré de Balzac qui écrivait à la main avec une vraie plume? Et là, je peux vous dire que les ratures, c'était quelque chose. Tout de suite, l'exagération. Oui, un peu, mais quand même. En fait, aujourd'hui, je comprends que l'intelligence artificielle générative génère des peurs de dépossession de l'humain. Ah, bah, elle a utilisé une intelligence artificielle, donc c'est pas vraiment elle qui l'a écrit. Tout dépend où tu places ce que c'est que d'être un humain. Moi, ce que je dis sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est moi qui continue à décider. J'utilise l'intelligence artificielle comme un assistant. Au même titre, alors, je veux pas faire ce parallèle parce qu'après vous allez croire que je pense que mes vidéos sont des œuvres d'art. Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Je pense pas du tout que mes vidéos sont des œuvres d'art. Mais vous le savez, des artistes très célèbres, des peintres utilisent des assistants pour des parties moins importantes du tableau. En fait, ceux qui ont peur de ça sont, je sais que le mot est très galvaudé en ce moment par des factions politiques. Mais vous avez peur du remplacement, en fait. Vous avez peur que l'outil remplace l'humain. Ça reste un outil. C'est mal d'avoir peur? Non. Mais il ne faut pas laisser la peur prendre le dessus. Et tu vois, quelque part, elle aurait pu dire « Oui, ben 5% de mon livre a été généré avec ChatGPT. 10% du travail, ben merci Word. J'ai imprimé avec une imprime. » Enfin, tu vois, c'est que des outils, quoi. « Il faut, faut rester lucide par rapport à ses peurs et pas laisser les peurs devenir démesurées et tout simplifier surtout avec ses peurs. Parce que ça, c'est le gros problème de notre temps, on veut tout simplifier, hein, des réponses simples à des problèmes complexes. Hein, je vous bassine assez avec cette phrase. Et pourquoi je suis contre un marquage ? Cette image a été générée avec l'intelligence artificielle parce que pour moi, ce n'est pas une information honnête. Il manque un pourcentage. Et à la limite, je serais jusqu'au boutiste. Cette image a été générée à 10% avec Dali, 70% avec Photoshop, 10% avec Lightroom. Voilà quoi. Non, docteur Rictus, c'est pas l'IA qui donne des résultats lisses et calibrés sans âme. Ce qui va donner des résultats calibrés, lisses et sans âme, c'est si tu laisses l'intelligence artificielle publier. En fait, c'est pour ça que la meilleure analogie, alors le problème, c'est que c'est un peu méprisant pour les stagiaires. Donc, oubliez le côté méprisant des stagiaires qu'il faut absolument respecter. Mais si tu publies directement ce que ton stagiaire a fait pour toi, tu vas avoir le résultat du travail du stagiaire. Mais a priori, quand tu as une certaine séniorité dans ton travail, tu travailles avec des stagiaires qui te fournissent les données et puis c'est toi qui décides ce qui va être publié. En fait, vous êtes aussi dans la... Et ça, c'est souvent quand on a quand on n'utilise pas l'intelligence artificielle générative au quotidien, vous êtes dans le fantasme d'une intelligence artificielle qui génère 100% du travail. Et que la décision n'est plus humaine, mais qu'elle est informatique. Un Dali, un Midjourney, va vous fournir 4 vignettes à chaque fois. C'est vous qui choisissez une des 4. C'est pas lui qui décide, ah bah tiens, on va publier cette image. Mais les IA font des conneries aussi, docteur Rictus. Beaucoup même. Par contre, elles vont vachement t'aider à générer des trucs qui sont relous. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un rapidement qui disait il est auteur de BD, etc. Ça arrive, pas tout le monde, mais dis-moi si je me trompe, mais ça arrive dans la BD qu'on confie à quelqu'un d'autre les décors derrière et que le dessinateur va se consacrer, par exemple, que sur le dessin des héros de l'histoire. Et puis, pareil, tu vas avoir des gens qui vont coloriser ta planche. En fait, de critiquer une autrice parce que allez, 5% de ses phrases ont été écrites par une intelligence artificielle, c'est comme la blâmer parce qu'elle a un correcteur orthographique. Quelque part. Quelque part. Hergé ne dessinait pas les avions, il déléguait, ouais. Et finalement, bah, c'est intéressant, Geekophone, que tu parles de la musique. Est-ce que vous êtes du genre à dire que les musiques qui utilisent des samples, des morceaux d'autres musiques, ne sont pas de la musique ? Alors, on n'est pas en train de parler des problèmes de droit. Ça, c'est aussi un autre problème. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que c'est absolument génial et que on ne doit pas se poser des questions. Et je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas avoir peur. Il faut avoir des craintes et y répondre avec intelligence et stoïcisme. Je crois beaucoup parce que j'ai lu ça. Donc maintenant, je suis en train de relire ce que c'est que le stoïcisme. Alors, à l'excès, le stoïcisme n'est pas forcément une bonne chose. Mais je pense que notre époque a besoin d'un petit peu de stoïcisme. Nous nous laissons beaucoup envahir par des émotions. C'est très bien hein, d'être à l'écoute de ces émotions, mais on ne doit pas être esclave de ces émotions non plus. On va bien rigoler quand l'IA va avouer qu'elle a utilisé le travail d'une autre IA. Oui, bah. Déjà, beaucoup de musique tourne autour de quatre accords. Les outils. En fait, à partir du moment où, où on utilise l'IA générative comme un outil, comme un autre, vous comprendrez mieux à quoi ça peut servir. Je pense. Mais après, il y aura des abus. Et on le voit aujourd'hui, il y a plein. Là, je reviens rapidement et après, on passera à Vision Pro. Mais sur cette autrice japonaise, on sait qu'Amazon est actuellement envahi de bouquins médiocres où là, justement, les mecs ont pris un peu l'IA. Pour son côté tout automatique et ont généré des bouquins qui sont à 95% écrits par l'IA. Et oui, du coup, ça va générer des trucs mauvais, quoi. Sans saveur. Une IA n'a pas d'imagination, une IA n'a pas d'idée. C'est important à comprendre. Ouais, attention avec l'utilisation de certains mots pour décrire voilà, certaines choses, c'est des mots complètement interdits. Donc, c'est. Mais c'est. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir de débat. Je suis pas un tech bro, move fast, break things, on s'en fout, les gens suivront ou pas. Non, il faut peser le pour et le contre. Je suis très attentif, mais même dans mon métier, là, je suis en train de tester des trucs qui permettent de générer un avatar et avec un truc de voix, on est vraiment à deux doigts que je puisse me remplacer par une IA. Mais j'essaye d'embrasser ça aussi en me disant à quoi ça pourrait me servir. Plutôt que de me dire oh, je vais perdre mon job. De toute façon, comme c'est pas un vrai métier que j'ai. Mais tu sais, j'y réfléchis à ce qu'on pourrait faire en Vtube. Mais en fait, justement, pour utiliser l'IA, je ne vois plus. Au début, j'étais là, putain, mais en fait, créateur de contenu, c'est fini à moyen terme. En fait, non. Elle aura quand même besoin de moi, ce que je me dis. Tout dépend à quel moment elle aura besoin de moi, cette IA. Mais, geekophone, l'IA ne pense pas à ma place. L'IA m'aide à penser. Elle libère un potentiel créatif. Mais je ne demande pas à une IA de penser à ma place. C'est pour ça que je vous dis dans mes vidéos, je me cherche. Par exemple, pour écrire les vidéos, là où l'IA m'est très utile, c'est pour réécrire certaines phrases. Moi, j'ai un style qui est très ampoulé. J'ai un style d'écriture qui est très scolaire, avec des phrases qui sont pas faciles à dire, en fait. Je sais pas écrire un langage parlé. C'est très dur d'écrire un langage parlé. L'IA m'aide à transposer mon écriture très littéraire en un langage plus parlé. Voilà. Et oui, l'IA est bourrée de biais, mais au même titre qu'un stagiaire, un être humain, n'importe qui avec qui je travaille. Je check leur boulot, quoi. Le problème de la full impro sur Newt, c'est que il y a des youtubeurs qui font de la full impro, mais derrière, c'est 10 fois plus de boulot pour le monteur. Bah, en vrai, Oleg, bien évidemment que la réflexion vient sur les formats courts. Les formats courts, si je synthétise ma voix et qu'il y a une présence IA suffisamment convaincante, on pourrait presque auto-générer des formats courts, oui. Après, c'est moi qui décide quels sont les sujets. Un jour, on dira qu'on a utilisé l'IA à l'insu de son plein gré, tellement c'est du dopage intellectuel. J'entends vos peurs, et elles sont légitimes. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que essayez de trouver la place de l'IA, même aujourd'hui, l'IA générative gratuite qu'on peut trouver, des voice chat GPT, essayez de voir comment ça peut vous être utile dans votre vie, qu'elle soit au travail ou dans votre vie privée. Il vaut mieux essayer de dompter ses peurs par l'utilisation du sujet de ses peurs, dit un mec qui n'ira jamais nager avec des requins. Hein. Il y a une différence entre peur et phobie. Si vous avez une vraie phobie de l'IA, bon, ce n'est pas un conseil que je vous donne. Mais si c'est des peurs, c'est hyper intéressant que vous ayez... Et ça demande un effort, hein, parce qu'au début, l'IA, vous avez l'impression que ça va vous servir à rien. C'est un peu gadget, vous allez essayer de lui demander de faire des recettes de cuisine et tout. Puis petit à petit, surtout si vous la mettez sur votre smartphone de manière assez accessible, vous allez voir à quel point ça peut devenir un assistant dans votre vie qui va débloquer plein de choses, quoi. En vidéo, tu penses que ça ferait plus de prises pour une séquence que le temps nécessaire à trouver le bon prompt pour ta version IA. Là encore, on n'est que à des phases expérimentales. L'IA peut te faire perdre du temps, ça je suis d'accord. Exactement comme Midjourney, ça va te parler, Oleg. Il y a des choses, et notamment on avait beaucoup cette discussion avec Guillaume qui lui était très Midjourney. Il y a des choses, je dis, mais... Ça aurait pris 5 minutes, ça, sous Photoshop, à l'ancienne, à faire. Tu viens de passer 2 heures à essayer de générer un truc avec Midjourney. Donc, il faut faire attention à ne pas se laisser entraîner par l'outil. Et c'est souvent une difficulté dans les métiers technologiques. Moi, j'ai connu la même chose avec Photoshop. Quand Photoshop est arrivé, eh oui, j'ai connu l'arrivée de Photoshop, je suis aussi vieux que ça. Bah, je me laissais un peu emballer par l'outil. L'outil permet de faire des trucs, donc tu vas laisser un peu l'outil décider pour toi. C'est pas une bonne façon d'utiliser un outil. Voilà, il faut utiliser le bon outil pour faire la bonne chose. L'important, c'est ce qu'on fait. Et l'important est effectivement le produit final. Et ce n'est pas un gros mot que de dire « j'augmente ma productivité ». Pour moi, il n'y a pas d'honneur à effectuer une tâche répétitive et chiante si tu as un moyen de l'automatiser pour un résultat aussi bon. Alors, je sais, ça va pas plaire à tout le monde, ce que je dis. Mais je suis dans ce sens-là de l'évolution de l'humanité. Je ne trouve qu'il n'y a rien de beau dans l'effort inutile de répéter une tâche chiante qui déshumanise. Mais c'est des débats très intéressants. Hein. Voilà, j'aurais le même débat si j'étais sur un tracteur en train de discuter avec un laboureur qui se casse le dos à labourer à la main, quoi. Ouais, il y a une certaine beauté dans ce labeur-là, mais je pense que Les mecs qui labouraient à la main avec leurs chevaux, etc., le tracteur, pour la plupart, ils ont quand même été contents qu'il arrive. Attention, comparez pas avec la salle de muscu. Là, l'effort répétitif, l'endurance, tu en éprouves un plaisir. C'est beau de se casser le dos. En fait, ça dépend, mais je sais que c'est un débat complexe, Oleg, tu l'as bien résumé. Oui, il y a une beauté dans le travail manuel et répétitif aussi, mais ça, là on parle d'artisanat. Et vous voyez, le dopage dans le sport, j'ai vu que beaucoup disaient l'IA, c'est comme du dopage dans le sport. Non, le sport, c'est autre chose que produire. Le sport, c'est une autre démarche. Vous comparez des choses qui sont... Mais c'est un débat compliqué, mais hyper intéressant, hein. Bref. Un autre débat que j'aimerais qu'on ait ce matin, parce que c'est un débat intéressant et qu'on n'a pas eu hier, c'est effectivement, je vous mets un des articles, hein, il y en a beaucoup, on va parler du Vision Pro, puisque c'est le premier jour de vente du Vision Pro aux États-Unis. Je crois que ce soir, pour nous, ça sera l'ouverture des ventes aux États-Unis, des précommandes. Apple a un peu relâché la bride en laissant des journalistes publier des photos d'eux en train d'utiliser le Vision Pro. Mais je vais commencer par un sondage. Je vais faire un sondage, si je sais encore faire un sondage. Je vais le faire moi-même, hein, si je trouve. Merde, c'est où les sondages déjà ? Ça fait longtemps que j'ai... Voilà, sondage. Nouveau sondage. Alors... Si, je dis bien si, le Vision Pro était dispo en France, est-ce que vous l'achèteriez ou pas à 3 500 €? Aujourd'hui, hein. Ne répondez pas dans le chat, je vais vous faire un sondage. Aujourd'hui, vous achetez... Vraiment une question très simple. Je sais que certains veulent dire « Oui, je l'achèterais bien, mais pas à ce prix-là. » Non. Je vais préciser. À 3 500 €. On va imaginer que la conversion... je sais pas combien ils le feront. Merde, je trouve plus mon euro. Oh, je vais l'écrire en toutes lettres. Je fais juste un oui-non. Pas de subtilité, hein, chez les sondages de Jérôme. Je fais des sondages autoritaires. Voilà. M'intéresse déjà de voir ça. Alors, répondez pas dans le chat. Répondez dans le sondage. Vous devez l'avoir, le sondage. Pour l'instant, le non est à 91%. Nous n'avons que 11 acheteurs. Et nous avons 101 non-acheteurs. 14 acheteurs. 111 non-acheteurs, 118 non-acheteurs. Ah, le oui monte. On est à 90% de non. Oui, mais ma copine ne veut pas. On ne rentre pas dans les subtilités. Tu mets non, du coup. Parce que ta copine a le droit aussi d'influer. Oui, prenez en considération votre vie, le niveau de revenu. 3 500 €, c'est pas la même chose pour tout le monde, on est d'accord. Mais là, je veux juste savoir, aujourd'hui, si le Vision Pro, aujourd'hui, 19 janvier, sortait à l'international, donc en France, est-ce que vous le commanderiez ? Non, non, mais posez-vous la question par rapport à vous, votre situation aujourd'hui. On a quand même 28 personnes qui l'achèteraient. Hein. Mais 215 qui ne l'achèteraient pas. On est presque à la fin du vote. Enfin, il reste encore quelques secondes. Non, n'essayez pas de devenir subtil avec un sondage qui ne l'est pas. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Non. Est-ce que vous l'achetez ou pas? Juste ça, juste cette question-là. Je suis Tim Cook. Voilà, je vous dis, tiens, tu peux, et imaginons que les stocks soient dispo, machin, etc. Je vous dis, voilà, voilà le Vision Pro dans l'état. Tu peux l'avoir, je te l'envoie la semaine prochaine. Est-ce que tu me donnes 3 500 € ou pas? Donc, tout le reste, là, vous êtes en train de vous compliquer, vous essayez de compliquer la question. Mais c'est normal, elle est compliquée. Mais là, imaginez-vous, vous êtes dans l'Apple Store ou sur le site, on vous dit, bah tiens, il y a un Vision Pro dispo, tu cliques sur acheter ou tu cliques pas sur acheter? Ok, alors, nous avons un non, mais je pensais que ça serait supérieur, hein, pour vous dire. Le non est à 89%, avec 228 d'entre vous qui n'achèteraient pas le Vision Pro aujourd'hui, et un oui qui est à 11% quand même, avec 29 d'entre vous qui l'achèteraient dès aujourd'hui. Voilà, c'est une info. On va rentrer un petit peu dans l'analyse. Mais c'est intéressant pour Apple, déjà. 29% de gens qui l'achètent sur un panel non représentatif. Nous sommes à peu près 645 dans le chat, si on compte les gens qui ne se sont pas exprimés ou qui ne peuvent pas d'ailleurs s'exprimer. C'est pas rien non plus. Oui, 11%. Oui, pardon, 11%. C'est pas rien. Alors, revenons quand même un petit peu ce que les premiers journalistes disent sur le Vision Pro. C'est intéressant. Eux, ils l'ont vraiment eu en main, ils l'ont mis sur la tête dans des tests très contrôlés par Apple. Parce que, par exemple, effectivement, on voit maintenant des photos de journalistes en train de l'avoir sur le visage. Ici, on a Patel, Nilay Patel de The Verge. Il faut savoir une chose, parce que c'est important d'avoir toutes les informations. Ces photos sont prises par un photographe de chez Apple. Donc, ce n'est pas le photographe de leur journal qui a pris la photo. Et il y a peut-être déjà une chose que vous remarquerez sur l'ensemble de ces photos que je vous montre, pour ceux qui regardent. Essayez de trouver le point commun de toutes ces photos, sans spoiler pour ceux qui auraient lu les articles. Quel est le point commun de toutes ces photos? Elles sont générées par IA. Non, en fait, il y a un point commun, c'est qu'on ne voit pas la batterie. On voit le fil de la batterie, mais le photographe de chez Apple avait comme brief de ne pas montrer la batterie. Donc, ça nous donne une information. Cette batterie, ça fait chier Apple. Ils n'ont pas trouvé d'autre solution, mais Apple ne veut pas de cette batterie. Et on peut déjà supputer que si ce n'est pas une catastrophe complète la sortie de ce Vision Pro, V2, V3, les ingénieurs d'Apple vont vraiment essayer de trouver le moyen d'être meilleur sur ce problème de batterie. Après, l'autre info, et c'est intéressant ce que tu dis, Sanid, ils sont tous assis. Il n'y a pas eu d'expérience d'utiliser debout. Alors, Apple est très clair. C'est absolument pas un objet pour se balader dans la rue. Et je pense même qu'il y aura des grosses notifs vous disant vous sortez d'une zone délimitée, que vous a... comme on a sur les casques VR aujourd'hui, il est fort probable que Apple va vous demander de scanner la pièce. Et si vous sortez de chez vous, il va dire ouais, ça t'est risqué péril, hein, mec. Hein. Donc c'est clairement un objet qui se destine à une utilisation assise, debout, mais statique. Alors, ça ne veut pas dire que éventuellement tu feras pas du yoga avec ou certaines activités impliquant certains mouvements du corps, mais c'est clairement pas un truc avec lequel tu vas te balader dans la rue. Même si, pronostic, dans les premières vidéos YouTube qui vont sortir des Américains qui l'auront, et peut-être certains Français hein, l'auront, seront allés l'acheter aux États-Unis, dans les premières vidéos, celle qui fera le plus de vues, c'est « Je me balade dans la rue avec mon Vision Pro, regardez la réaction des gens. » Ça, alors là, je prends les paris avec vous, ça fera partie, il y aura aussi « J'ai cassé mon Vision Pro à 3500 boules. » Probablement MrBeast qui va faire « J'ai acheté 30 000 Vision Pro et on regarde tous un film ensemble. » voilà. Donc, j'ai pris un peu mes pronostics de vidéos qui vont vraiment buzzer. Le take sur MrBeast. Ah oui, je pense. Alors, je serais MrBeast, c'est ce que je ferais. On a acheté 30 000, ça fait beaucoup, mais quand même, bah c'est MrBeast. J'ai acheté 30 000 Vision Pro et on regarde un film ensemble à 30 000. Fais ces trois vidéos, j'y crois, moi je clique. Alors déjà, pour acheter 30 000 Vision Pro, sachant qu'Apple ne va en sortir que 80 000. Donc, il va avoir un problème quand même, MrBeast. Bon, après, il a peut-être appelé Tim. Allez, hein, tu me réveilles, là, les ouvriers chinois, là. Je veux une ligne de production rien que pour moi. Non, Apple ne va en sortir que 80 000. Et 80 000, vous vous rendez pas compte? Oui, Jerry Rig Everything, il va l'attaquer au chalumeau, ça, c'est clair. 80 000, c'est du pipi. Jamais Apple... même sur ses produits les plus prototypales, comme l'Apple Watch 0, Apple n'a jamais sorti une aussi faible quantité. Et ça, c'est une information. C'est qu'Apple, on est encore, et c'est ce que je dis dans ma vidéo, on est dans un stade hyper prototype. On est très très loin de ce que Apple veut faire pour le mass market. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils le sortent alors ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une étape, hein, aujourd'hui, dans la création de produits. C'est presque une expérience prototype à grande échelle que Apple veut faire pour lancer le développement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de killer app sur le Vision Pro. Soyons clairs. Apple sait très bien que très peu de gens vont l'acheter. Et je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Je pense que c'est un des premiers produits Apple où le coût de fabrication du Vision Pro est très proche du coût de vente. Je pense quand même que Apple s'est gardé 30% de marge parce que ça, ils n'ont pas le droit de faire en dessous chez eux. Je pense, il y a une règle d'or. Mais le Vision Pro, dans son état actuel, coûte tellement cher à fabriquer qu'ils ne peuvent pas le sortir à un prix en dessous. Donc, ils savent que 3000, même chez Apple, ils savent très bien que 3 500 € pour quelque chose, et là, écoutez-moi bien, Apple sait que c'est un accessoire. D'une certaine façon, ça peut remplacer un PC, des écrans, etc. Mais Apple sait très bien que ce n'est pas un produit mass market à 3 500 €. Et Apple ne veut pas que ça reste un produit de niche. Donc, je pense que les gens qui vont dire... On va voir hein, dans la semaine comment ça se passe, dans les mois à venir. Les gens qui vont sauter sur le wagon de « c'est un flop », iront trop vite en besogne. Les gens qui iront sur le wagon « c'est un succès », c'est révolutionnaire, iront trop vite en besogne. Je pense qu'on est vraiment qu'à une étape zéro, un peu comme l'Apple Watch zéro. On est à l'étape zéro de la vision d'Apple. En fait, l'erreur qui va être faite, à mon avis, par beaucoup de YouTubeurs, c'est de confondre l'objet et le système que Apple veut mettre en place. Copilot te dit que le coût de fabrication s'élève à 1 500 $ et ça dépend des moyennes. Alors, coût de fabrication, rajoute coût de distribution. Les gens qui vont aussi, rien que dans les Apple Store, faire les démonstrations, je pense qu'on arrive vite à 2 000 à 2 500 $. Ça laisse quand même une marge confortable de 1 000 $. Mais moi, ce que j'ai entendu, Phil Rin, c'est que par exemple, les deux écrans qui sont fabriqués par Sony, pour l'instant, ils ne sont pas fabriqués sur une chaîne industrielle. C'est presque de l'artisanat avec énormément de pertes. Alors, moi, je ne vais même pas répondre si je l'achète ou pas. Si j'avais la possibilité de l'acheter, je le prendrais pour faire un test sur la chaîne. La vraie question que je devrais me poser, et c'est la question que je vous pose, en fait, est-ce que je l'achèterais si je n'avais pas une chaîne YouTube de tête? Et puis, je le revendrais derrière. Parce qu'honnêtement, je vais être honnête avec vous, aujourd'hui, investir 3 500 € de trésorerie de ma boîte pour un objet qui n'augmenterait pas ma productivité au quotidien, c'est une dépense en tant qu'entreprise que je ne peux pas faire. Après, dépenser 3 500 € pour faire une vidéo qui pourrait générer éventuellement un revenu pour mon entreprise, ça reste à voir, mais du coup, je le revendrai assez vite derrière. Après, est-ce que j'en achèterai un pour moi? Il y a deux choses qui me feraient acheter un Vision Pro. Il y a trois choses. Deux avouables, une inavouable. L'inavouable, c'est le porn. Ah, écoutez, vous voulez de la franchise, je vous la donne. Hein. Les avouables, c'est que j'avoue... Bon, il y en a plein qui ne le diraient pas, moi je le dis. Voilà. La deuxième, ça serait le jeu vidéo, mais pas le jeu vidéo VR. Écoutez-moi bien. Quand je joue au jeu vidéo, j'ai la chance à Paris d'avoir une pièce bureau où je peux m'isoler quand je joue au jeu vidéo. Autrefois, je jouais au jeu vidéo dans le même salon que Marion et tout. Bon, là, j'ai la chance de pouvoir m'isoler quand je joue au jeu vidéo. Je mets un casque sur la tête, je fixe mon écran, je m'isole quand je joue aux jeux vidéo. Si je pouvais accéder à mon Shadow ou même à mon PC avec le Vision Pro et pouvoir remplacer, je rêve d'avoir un écran Samsung Odyssey G9 panoramique, un grand. Je rêve pas d'être en VR, je rêve d'avoir un grand écran panoramique. Ce que j'ai quand même besoin de voir autour de moi, j'ai pas envie d'être 100% immergé dans le jeu. Juste envie d'un grand écran. Ce grand écran, physiquement, je pourrais pas l'acheter. J'ai pas la place pour l'acheter. Et je vois d'ici la tête de Marion si je débarque avec un grand écran panoramique sur mon bureau, parce qu'on partage ce bureau quand même. Ok ? Donc, si je peux me servir du Vision Pro comme d'un écran externe, et je peux le faire aujourd'hui. Shadow tourne très bien sur un Mac et je lance mes jeux PC. Donc, techniquement, il faudra juste voir si Shadow lance une appli sur... Mais on a déjà de la VR hein, sur le Shadow. Et dans certains cas, dans certains jeux, toucher la molette et éventuellement basculer dans la VR, pourquoi pas? Mais je vois pas tous mes jeux en VR. Il y a plein de jeux auxquels je joue, la VR ne me servira à rien. En gros, je joue à des jeux où je cherche plus ou moins à m'immerger dans l'univers. Et finalement, on en revient à la question du type de jeu. Jeu à la première personne, jeu à la troisième personne, jeu comme les jeux de stratégie où t'es carrément au-dessus. Tous les jeux ne recherchent pas une immersion complète dans l'action, en fait. Là aussi, il faut ne faut pas être voilà, Humankind en VR, aucun intérêt. Par contre, Humankind avec un grand écran où je pourrais éventuellement ouvrir des écrans supplémentaires pour de la micro-gestion, yes, je prends. Voilà, moi, je ne joue pas qu'à des FPS. League of Legends, Osef, d'avoir un grand écran, oui, mais pas Osef si je peux afficher plus d'informations sur l'action. Il y a beaucoup de jeux de stratégie où moi, j'aimerais plus de surface d'écran. Quitte à pouvoir bouger aussi des trucs avec mes mains, tu vois. Donc, un écran virtuel pour le jeu vidéo, j'achète. Un écran du multi-écran virtuel pour certaines situations de travail, pas toutes, je ne me vois pas porter ça toute la... De toute façon, la V1 est beaucoup trop lourde et 2 heures d'autonomie de batterie, c'est clairement pas un truc que tu vas porter toute la journée, même si tu peux le relier au secteur. Tous les journalistes le disent, ça devient fatigant au bout de 15 minutes parce que c'est un prototype. Il est beaucoup trop lourd pour l'instant, ce casque. C'est la raison pour laquelle je l'achèterai pas. Aujourd'hui, il est trop lourd. Quand je vois déjà que mon Quest 2 me fatigue au bout d'une demi-heure, je vais pas acheter un Vision Pro. Donc, le boulot, il y a plein de moments dans le boulot où je ferme la porte d'un bureau ou alors je retourne chez moi en télétravail pour m'isoler. Là, si je peux, dans un open space, en mettant mon casque, m'isoler du monde extérieur, être quand même en interaction, hein. Les gens voient que je suis en train de travailler, ils voient mes faux yeux, ils voient qu'il y a quelque chose... Enfin, je me suis pas complètement isolé d'eux, mais je me mets dans une situation, les gars, je suis en train de bosser sur quelque chose. Et là, de pouvoir afficher 3, 4, 6 grands écrans selon ce que je suis en train de faire, parce qu'en montage vidéo, je me vois très bien utiliser plus de 3 écrans, parce qu'on a besoin d'ouvrir énormément de fenêtres, sans devoir trimballer ces écrans physiques ou les avoir sur mon bureau où ils me bouchent la vue toute la journée, là, oui, j'achète. Mais aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis dans ma vidéo, je pense qu'on est face à un produit qui n'est pas encore, j'ose dire les termes, qui n'est pas encore un produit Apple. Ce produit manque de simplicité dans le design. Il y a 5 matériaux différents, 2 sangles. Ils n'ont pas encore abouti le truc. Le jour où ça sera aussi léger, intuitif à mettre qu'un masque de ski, enfin des lunettes de ski masque, ça sera la V3. Mais là, clairement, on est dans du prototype. Regardez-moi ce bandeau, là. Le bandeau secondaire avec le strap au-dessus de la tête. Ça résout un problème. Ça résout un problème de confort. C'est, à mon avis, le seul strap valable. Leur strap plus joli, là, celui qui se met derrière la tête, celui-là, ça va pour 10 minutes, quoi. 15 minutes, grand max. Mais là, vous voyez bien que ça déporte le poids vers l'arrière de la tête, mais ça aide en aucun cas à alléger le poids du masque. Là, il faut une bande qui passe au-dessus de votre tête. Donc là, pour moi, il y a clairement un problème de matériaux. Je pense que Apple se pose des bonnes questions. j'aurais peut-être acheté une version plus simple. Je comprends que Apple bataille beaucoup pour cette histoire d'afficher des yeux à l'extérieur pour donner la présence, etc. Bah déjà, pour deux usages, moi, mes yeux qui s'affichent dessus me paraissent pas indispensables. Et du coup, mine de rien, ça oblige à mettre du verre. Bon, le métal, je pense qu'ils l'ont mis pour, ils l'ont mis un peu pour faire passer la pilule des 3 500 €, mais clairement, il faut du plastique léger. Là, il me faut des structures légères. Il me faut quelque chose, c'est très bulky pour l'instant. Fibre de carbone, peut-être. Mais en tout cas, il faut se focusser sur des trucs plus légers. Imaginez, alors, je ne suis pas ingénieur, mais imaginez une version où, par exemple, la partie en verre qui sert uniquement à afficher ta présence, si tu es dans un environnement de boulot et qu'il y a d'autres gens, pour pas paraître enfermé. Imaginez que cette partie soit clipsable. C'est-à-dire que quand je me mets, par exemple, en jeu vidéo... j'ai pas besoin, comme Marion va pas forcément rentrer dans le bureau, j'ai pas besoin d'afficher ma présence. Donc la partie verte qui est un peu lourde, je puisse l'enlever pour avoir finalement, quand je suis vraiment solo, on peut imaginer un casque en deux parties, une partie pour afficher ma présence, pour être en interactivité, et une partie quand je suis vraiment solo. Si je regarde un film seul, est-ce que j'ai besoin de la partie vert ? Et en plus, ça permettrait effectivement de faire une version light sans la présence. Je pense que Apple veut voir dans quelle mesure ces yeux qui flottent apportent vraiment quelque chose au marché. Et il pourrait sortir un casque deux fois moins cher sans la partie verre, en fait. Mais pour le coup, ça serait un casque qui ressemblerait beaucoup à ce que fait Meta. Bah, les capteurs, on pourrait les mettre dans... Après, je suis pas ingénieur. Paperman. Si, ça serait AR, parce que Nali Eric, aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Tu vois le monde autour de toi, pas à travers la partie verte. Tu le vois à partir des caméras qui sont dans la partie verte. En fait, la partie verte n'est pas là pour une transparence de la vision. La partie verte n'est là que pour voir l'affichage de tes faux yeux. Le Quest 3 de chez Meta n'a pas cette de verre et pourtant tu peux voir le monde à travers. Ce sera peut-être la différence entre un pro et un non-pro, ouais, peut-être. Alors, je pense déjà à remplacer le métal par du plastique, ça serait bien. Je pense qu'il y a, des possibilités de réduire le poids énormément. C'est là où je vous dis que Apple vend un prototype, là, pour l'instant. Oui, on est d'accord. Mais de toute façon, c'est ce que je dis. Apple ne veut pas créer ce marché en vendant des produits à 3 000 € ou 3 500. Apple sait très bien qu'ils deviendront mass market, allez, à 1 500 €. C'est-à-dire, la V2 sera probablement à 2 500. La V3, peut-être à 2 000. Après, ça dépend de l'inflation, hein. Le sweet spot, je pense, à 1 500, ils vont commencer à en vendre comme des petits pains. Le problème du titane, c'est que c'est très dur de faire des formes courbes avec du titane. Hein. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis du titane. Pourquoi commencer par la version pro et faire du marketing orienté non pro? En fait, Aerong, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'Apple Watch 0. L'Apple Watch 0, et vous pouvez aller revoir ma vidéo à l'époque, ça date. Très clairement, je le dis un peu dans la vidéo, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire de l'Apple Watch. Et pour être honnête, jusqu'à la série 3, Apple ne savait pas encore exactement à qui s'adressait l'Apple Watch et à quoi elle allait servir. Ben là, on en est là. En fait, Apple ne sait pas si dans les premiers utilisateurs, eux, ce qu'ils vont analyser, c'est au bout de 6 mois. Parce que, bien sûr, en fait, là aussi, ce genre de truc, tu as envie de l'acheter pour le tester, c'est évident. Mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui va faire que je le sorte du tiroir ou que je le mette sur ma gueule dans 6 mois? Et c'est là où moi, je vous ai donné une réponse très franche. Porn, jeux vidéo, travail. Voilà. C'est éventuellement ce qui me ferait sortir dans cet ordre. J'aime bien mélanger. Oh, c'était même avant Grohl. Ben, j'avais fait une vidéo sur l'Apple Watch 0. L'Apple Watch 0. Je ne sais plus comment je l'avais appelé. Alors, justement, là, je fais un sondage, mais ce n'est pas un sondage. Répondez-moi dans le chat. Ceux qui ont un casque VR chez vous, est-ce qu'il vous arrive de le mettre encore? Et vous le mettez pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de dire si vous le mettez pour du porn. Confidentialité. Moi, je n'ai pas de vie privée, on s'en fout. Mais, ah, t'as mis le lien, Apple Watch, essayage et précommande. Ouais, c'était vraiment le début, ça. 2 fois par an pour du jeu vidéo. Je vais me détendre. Oui, souvent pour le faire tester à des amis ou me défouler un peu. Rarement. Jouer à Beat Saber, c'est la réponse. Si vous me dites c'est pour jouer à Beat Saber, ceux qui l'utilisent pour du porn, répondez ça. Ah non! Je joue vraiment à Beat Saber, hein. T'as acheté un HTC Vive, tu l'as utilisé au début 10 fois, tu l'as jamais ressorti depuis, tu l'as donné à ton beau-frère. Moi, très honnêtement, là, je peux vous dire, mon Quest 2, il prend la poussière. Ça, en fait, je l'utilise surtout pour jouer à Beat Saber. Non, en vrai, même pour ça. C'est trop chiant à mettre. Non, je l'utilise pour essayer... Justement, quand j'écris des trucs sur le Vision Pro, sur l'ordinateur spatial, j'ai pas acheté le Quest 3, mais même avec le Quest 2 et son pass-through en noir et blanc, j'essaye d'expérimenter du multi-écran pour voir en productivité. Et c'est ça hein, qui m'a amené à faire cette vidéo que j'avais fait il y a quelques mois, où j'avais un peu deviné le Vision Pro avant le Vision Pro. C'est un peu grâce au Quest 2 que je suis arrivé à ces conclusions-là. Que c'est ça que je voulais, quoi. « C'est intéressant ce que tu dis, Nali et Eric. C'est un peu comme ton simulateur de volant pour les jeux de bagnole. C'est trop contraignant. Donc, au bout de 6 mois, au début, tu vas le faire. Ça t'apporte un petit plus dans le jeu. Alors, un grand plus hein, pour certains. Mais tant que t'as pas vraiment fixé un volant et que tu joues pas qu'au jeu de bagnole, c'est un peu relou à sortir, à rebrancher et tout, quoi. Est-ce que les MetaQuest peuvent proposer les mêmes choses que le Vision Pro? Alors, soyons, donnons une réponse honnête. Le Quest 3 peut faire en bidouillant pas mal de choses que ce que le Vision Pro fera, mais dans une qualité nettement moindre d'affichage. Apple a vraiment mis le top du top de l'affichage dans son Vision Pro. Et tu pourras... Alors, j'ai vu un mec hein, qui arrive à afficher iOS dans son Quest 3. Tu vas pouvoir bidouiller pour avoir une expérience visionnesque. Mais tu seras quand même très loin de ce que Apple va proposer sortir de la boîte. Ouais. Ah non, je ne l'ai pas vu en vrai. Hein. Moi, je ne suis pas allé aux États-Unis pour le voir. Je n'ai pas été invité par Apple et Apple ne nous le prêtera pas. Hein. On n'est pas une chaîne qui est sur les radars d'Apple. The High Collection, on verra. Est-ce qu'il va l'avoir pour la sortie américaine? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'infos. En dehors de The High Collection, je pense qu'en France, il y a peu de gens qui ont la probabilité de l'avoir même en main. Peut-être dans la presse, on verra. Mais je pense que là, Apple se concentre sur une sortie vraiment américaine. Apple a absolument pas envie. Alors, après, un Numérama ou d'autres, ils ont les moyens aussi de se payer un avion ou un correspondant américain qui va l'acheter aux États-Unis pour le tester. Nous, on n'a absolument pas les moyens, puis pas vraiment, on n'a pas les moyens de faire en plus un vol. En plus, moi, comme je suis myope, il faudrait que je me fasse des verres de prescription qui marcheraient, enfin, une ordonnance qui marcherait aux États-Unis est beaucoup trop compliquée. En plus, à mon avis, ça va être en rupture de stock très, 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 très vite. 80 000 exemplaires, c'est rien. C'est vraiment rien. Oui, bah ceux qui sont dans la presse. Bah, non, mais je sais pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on l'aura pas pour sa sortie américaine. Ça, c'est clair. Merci à Monde de Jeux pour ton raid. Un grand merci à Monde de Jeux. J'espère que vous allez bien. Comment on fait un merde, un shout? Putain, il faut que j'apprenne à faire ça. C'est quoi la commande pour faire un shout? Je croyais que j'avais un bouton pour faire ça. Dédicace, merci. Ça doit être la modération qui me l'a fait. Faudra me donner la commande dans la modération. Merci, Grob. Des Versailles sur mesure. Oui, il faut faire des... Mais c'est pas n'importe quel Versailles. Hein. C'est des modules spéciaux qui vont se magnétiser sur le Vision Pro. Et en plus, qui seront reconnus par le Vision Pro. Donc, tu peux pas non plus te bricoler un truc, quoi. Ou alors, oui, il faudrait que je me mette des lentilles de contact, mais je peux vous dire que je ne vais pas l'utiliser beaucoup si je dois faire ça. Tu peux pas le prêter. Si, mais il faudra que la personne, si elle a des verres de prescription, ait aussi des magnets Vice pour pouvoir les mettre dans ton Vision Pro. Donc, c'est pas non plus soudé. Hein. Tu pourras le revendre, ton Vision Pro, ou le prêter. Mais il faut juste que l'autre ait aussi des modules adaptés à sa vue. Oui, c'est quoi, 1060, c'est 175 € je crois, les VR Zeiss. L'horreur si tu casses le cadre. Ah, de toute façon, un truc à 3 500 €, si tu le pètes, t'as les boules, hein. Sauf si t'es youtubeur et tu sais que la vidéo va te générer 10 000 € de revenus parce que tu as pété ton Vision Pro à 3 500. Nicolas, je n'ai pas de réponse. Parce que d'abord, c'est pas distribué en France. Le seul truc que je peux te dire, après, je suis pas opticien, mais moi, par exemple, j'ai besoin de mes lunettes dans le Quest 2. C'est pareil, le Quest 2, s'adapte pas à ta vue. On pourrait dire c'est bizarre parce que je vois très très bien de près. Et comme les écrans sont près de mon œil, je devrais pouvoir voir très très bien. Mais en fait, non, parce que l'écran va simuler la vision de loin. Donc ma myopie intervient. Donc je pense que si ton problème n'est qu'un problème de vision de près, t'as pas besoin de verre de prescription. Mais là encore, je sais pas. Si t'es myope, par contre, t'auras besoin de verre de prescription. Ça rend pas aveugle. Pour l'instant, je n'ai pas entendu des médecins, des merde, comment s'appellent les médecins des yeux? Des ophtalmos, pardon. J'ai pas entendu des ophtalmos, j'ai pas vu de papier d'ophtalmos disant que c'était particulièrement plus dangereux pour les yeux que des écrans d'ordinateur qui sont dangereux, hein, qui nous ont tous rendus myopes, les écrans d'ordinateur, ophtalmos. Ouais. Des yeux-logues. Donc peut-être, hein, peut-être que si ça devient mass market, des ophtalmos ou des médecins vont nous dire c'est beaucoup plus dangereux pour les yeux que des écrans d'ordinateur. Oh, Ninon qui nous fait un Ninon qui nous fait un raid. Comment ça va? Comment ça va, gros raid? Merci à vous. On était en train de parler du Vision Pro. Comment ça va? Pour une fois qu'on peut se faire raider, parce qu'on est en retard. On parlait justement, oui, des verres de prescription dans le Vision Pro. On a beaucoup parlé pour ceux qui arrivent, voilà, on sait que c'est un produit très prototypal, qu'il faut pas juger du succès ou pas du Vision Pro d'Apple sur cette première version qui est très prototypale. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un marché autour de l'ordinateur spatial? C'est-à-dire remplacer dans certaines situations nos écrans par des versions flottantes et virtuelles de nos écrans. On n'est pas en train de parler de la VR. Attention, parce que ce genre de débat, on glisse vite dans la VR, qui est l'immersion totale, le crantage ultime du Vision Pro. Mais Apple met surtout en avant l'ordinateur spatial, c'est-à-dire l'AR, l'intégration du monde réel avec plein d'écrans. Utiliser un ordinateur où qu'on soit dans l'espace avec autant. Un des journalistes disait un truc intéressant hier, et regardez ma vieille vidéo sur l'ordinateur spatial sur YouTube. Je l'avais fait ça. Il dit dans son truc qu'il y a un truc super intéressant quand tu bosses avec un truc VR, c'est que tu peux mettre certains écrans derrière toi. Un peu comme vous avez certaines infos sur votre smartphone que vous mettez un peu loin. On classe aussi sur nos écrans l'importance des infos. On a envie quand même, par exemple, que le Discord reste ouvert, d'être notifié d'un truc. Mais hop, je mets la fenêtre derrière moi. Je peux me retourner pour la voir si je veux à certains moments, quoi. Vous étiez sur le même sujet chez Nignon? Ben, excellent. Ça marchera pas pour les gens qui ne voient Que d'un œil, je... Alors là encore, hein, je ne suis pas ophtalmo à vous poser des questions très précises. De toute façon, Apple a prévenu que ça ne marchera pas pour certaines personnes et certains problèmes de la vue. L'enceinte chez Apple n'a pas tant floppé que ça. Hein. Ce n'est pas un énorme succès, mais ça n'a pas floppé. La question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels qui utilisent des masques tous les jours ? Non, je dirais plutôt la question, l'HoloJet, elle est différente. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à troquer leur grand écran noir au bureau, dans leur open space, qui leur bouche la vue, hein, qui empêche de voir les voisins ? Tu sais, la plupart d'entre vous qui bossez dans des bureaux, il y a des écrans partout, quoi. Et c'est moche. C'est pour ça que les gens qui me disent « Ah, t'imagines la vision dystopique du bureau avec des gens avec des visières ?» Pour moi, il n'y a pas une grande différence entre quelqu'un qui a un casque sur les oreilles, les yeux sur son écran, là, comme ça, en train de bosser, et quelqu'un qui, pour se concentrer, met son casque, et du coup, bah, il y a des écrans qui apparaissent devant lui, quoi. Moi, j'y vois un côté très pratique, c'est que ça m'évite... Moi qui me balade souvent entre trois points différents pour bosser, ça m'évite de trimballer tous mes écrans. Et je suis pas toute la journée le nez sur mes écrans, mais il y a des moments où j'ai besoin de me concentrer. Donc les gens qui disent « personne ne portera un casque tous les jours », vous passez votre journée à regarder votre écran, bah c'est pas bon déjà. Un casque sur les oreilles, un micro et les yeux sur un écran, bah déjà, vous êtes en train de streamer. Ouais. Des lunettes, mais pas fermées comme ça. Faut voir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec pour ce que j'ai expérimenté, avec des systèmes plus ouverts, ça marche. Mais l'opacité de l'écran n'est pas parfaite. Je m'explique. Tu peux faire apparaître aujourd'hui dans des lunettes des écrans virtuels, mais ils vont être transparents. Or, un écran transparent, c'est absolument pas pratique si tu n'arrives pas à reproduire une opacité. C'est-à-dire le moindre objet qui a du contraste derrière ce que tu vois va t'empêcher de voir. C'est comme les reflets sur un écran, en fait. Donc, il n'y a que en occultant la lumière que tu peux empiler une couche d'air sur la réalité. Les youtubeurs, ils n'ont pas le droit d'en parler encore, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on verra peut-être les premières vidéos. A priori, je pense qu'Apple va lâcher la bride des vidéos. Alors, Marquis Brownlee a déjà parlé de son expérience et tout ça. Pour vous faire un résumé de ce qu'en pense la presse. Qualitativement, c'est très impressionnant ce qu'a fait Apple. Physiquement, c'est trop lourd pour le supporter plus de 20 minutes. Ce prototype, cette V1, est trop lourde. Et c'est ça le plus intéressant. La plupart des journalistes n'arrivent pas à être... à avoir un avis très clair sur est-ce que ça va prendre ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas de killer feature. Alors, a priori, tu parles du sac à vomi. Moi, qui ai expérimenté les premières lunettes VR, c'était un vrai problème, hein, le motion sickness. Justement, ils disent que dans le cas du Vision Pro, c'est méga réduit. Sauf quand tu bascules en VR. En fait, le problème du motion sickness, c'est la VR. C'est là où il faut que vous différenciez les choses. Apple, la VR n'est qu'une option du Vision Pro. C'est le dernier crantage de la molette. Je fais disparaître tout autour de moi et je bascule complètement dans l'univers virtuel. Mais pour Apple, ce n'est qu'un crantage et ils le mettent vraiment pas en avant. C'est l'isolement total. Ce que Apple met en avant, c'est l'AR, la réalité mixte. Je mélange, donc vous voyez autour de vous, et des écrans, un layer en fait, vient se superposer. Un layer d'affichage, un layer d'informatique vient se mettre devant vous. Et Apple le vend assez bien avec ce concept de vous faites apparaître des écrans, des fenêtres dans votre environnement réel, en fait. Bah, honnêtement, c'est bien ce qu'il dit, ça sent le demi-fiasco. Un demi-fiasco sera un énorme succès pour Apple. Parce qu'ils auront déjà retourné un marché, le marché de l'AR/VR, qui est un flop quasi absolu pour l'instant. Donc un demi-flop sera déjà très bon pour Apple. Je pense que la crainte d'Apple, c'est le flop absolu. C'est-à-dire que ceux qui vont dépenser 3 500 pour ce prototype, cette V1, donc les développeurs, quelques journalistes, quelques influenceurs, disent « je regrette ». En fait, la qualité n'est pas là. Le truc est inutilisable. Et je ne vois pas l'avenir du computer spatial. Ce que Apple veut qu'on dise aujourd'hui, c'est pas que cette V1 est bien. Ils s'en foutent que les gens disent qu'elle est trop lourde, machin, trop cher. Ça, ils s'en branlent complètement, Apple. Ce qu'ils veulent entendre, c'est est-ce que l'ordinateur spatial a de l'avenir ou pas? C'est ça que veut Apple. C'est ça que veut savoir Apple en mettant sur le marché cette V1, qui même j'ai envie de l'appeler V0. C'est même pas une V1. Donc, tous les problèmes ergonomiques, la chaleur, la lourdeur, les sangles, les trucs, c'est pas le problème pour Apple. Le problème pour Apple, c'est est-ce que ça vaut le coup qu'on investisse et qu'on mette plus d'ingénieurs et qu'on développe des lignes de fabrication parce que l'ordinateur spatial, le concept d'Apple autour de la réalité mixte, l'ordinateur spatial, ça fait rêver. 20 millions de ventes pour le Quest 2. Le Quest 2, oui, mais attention, les 20 millions de ventes, c'est avec des baisses de prix monumentales. Et le Quest 3 ne se vend pas du tout, Irong. Même Sony est en train de jeter l'éponge hein, sur la VR. Alors, ils ont parlé d'une nouvelle version. Tout le monde attend un peu de savoir comment ça va se passer pour Apple. Parce qu'Apple, à lui tout seul, peut redonner de la hype à un marché. Hein. J'avais testé le HoloLens à l'époque. Intéressant, il avait par contre un champ de vision hyper limité. C'est comme si tu avais un ordinateur spatial, mais dès que tu bougeais le regard, c'était plus spatial du tout. Mais attention, c'est pas de la VR que Apple veut faire. Il y a une grosse confusion. C'est d'ailleurs pour ça que Apple a interdit aux développeurs de mettre le mot VR et même AR sur des apps pour le Vision Pro. Apple ne veut pas que vous confondiez. La VR n'est qu'un des crantages du Vision Pro. Ce n'est pas de la VR que veut faire Apple. La VR est une option du Vision Pro. Mais ce n'est pas le but. Alors, oui, le champ de vision du Vision Pro sera de 110 degrés. 110 degrés, je vais me tromper, mais je crois que c'est à peu près... C'est à peu près ça, 110 degrés, dites-moi. La vision, c'est combien? C'est 180? Je fais des oreilles de Mickey. C'est 160? C'est très limité, 110? Oh, vous êtes vachement... En fait, le truc, c'est que vous voulez tous, pour l'instant, en 2024... Un casque aussi léger que des lunettes, facile à mettre comme des lunettes, avec une batterie dedans, qui affiche en 8K, et avec un angle de vision. Des lunettes non plus, hein, ça n'a pas les lunettes. Je sais pas, mais mes lunettes, elles ont un angle de vision de 110, je pense. C'est 180-200 l'œil humain, c'est 180, ouais. Et des lunettes, justement, quand on porte des lunettes, alors ça dépend de la forme de vos lunettes, mais des lunettes, je dirais que c'est 110. Moi, je vois flou hein, sur les côtés. Hein. Ok, à la base, le champ visuel est de 60 degrés du côté nasal et quand vous regardez avec votre nez, et de 90 du côté temporal. Je comprends ce que tu veux dire, c'est une blagounette. Donc ça fait 150 degrés d'après Mintraya. Tu écoutes de la musique avec le Vision Pro? Tu peux. Il y a des écouteurs, hein, oui, dedans. Bah tiens, oui, demandons le copilot. Notre copain. Ah, tiens, ça bug. Ah non, c'est bon. De combien de degrés est la vision humaine?
Le champ de vision humain varie selon les sources. En vision monoculaire, le champ de vision couvert par les yeux d'un être humain peut avoisiner les 200 degrés. Cependant, il ne s'agit pas d'une vision binoculaire et les 200 degrés ne sont atteints que par fraction. Par fraction, cela signifie qu'il est impossible de voir sur 200 degrés simultanément, mais il est possible de couvrir cet angle par mouvement oculaire. En vision binoculaire, le champ de vision horizontal maximal est d'environ 180 degrés avec les deux yeux, chaque œil ayant un champ d'environ 150 degrés, 90 degrés du côté temporal et 60 degrés du côté nasal, ce qui permet d'avoir un champ de vision binoculaire de 120 degrés flanqué de deux champs monoculaires d'environ 30 degrés. Il est important de noter que bien que notre...
Bon, comme d'habitude, il n'y a pas de réponse simple à un problème complexe. Donc, si on se base sur 180, même 150, 110, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, si elle a dit 180. Oui, mais elle a ajouté plein de nuances. C'est marrant, hein, vous avez dit elle. Vous avez genré Copilot? Ah, super. C'était un piège. Elle dit 120 en binoculaire. Ah voilà, ça va être le débat en fait. Au lieu de parler du Vision Pro, on va parler du champ de vision humain. Je vous aime la commu. Ça balance des polémiques gratos, la modo te remercie pas. Eh, il faut bien que je vous fasse de temps en temps des entraînements commando, hein, les modos. Hein. Samsung n'a rien annoncé de ce côté. Alors, ils avaient annoncé l'année dernière, mais là, ils n'en ont pas trop parlé à l'Unpack. Ils ont plutôt parlé, oh, on est en train de faire une bague. Alors, il y a quand même des trucs qui font dire que, oui, peut-être que Apple va faire un flop. Il y a une news ce matin que Netflix a dit qu'il n'avait aucune intention de développer une app pour le Vision Pro. On pourra accéder à Netflix dans le Vision Pro à travers le navigateur. Mais autant Disney développe une app propriétaire où on pourra choisir sa salle de cinéma et tout, les films seront en 3D, etc. Je suis assez intéressé, on connaît tous le flop de la 3D, mais la 3D dans certaines situations, moi j'ai vu Avatar dans les salles là où on est allongé en IMAX, là la 3D ça en jette. Donc la 3D dans le Vision Pro, ça peut être un retour de la 3D. Tout ça pour dire, par exemple, Netflix n'y croit pas en Vision Pro pour l'instant. Alors, c'est sûr que Netflix sont pas copains avec Apple à cause de la taxe de 30%. Mais en tout cas, Netflix ne pas. Alors, même s'ils sont pas copains avec Apple, Netflix pense quand même que ce n'est pas une priorité, puisqu'effectivement, Netflix, aujourd'hui, ils ont moins d'argent et le marché est plus difficile. Donc, ils n'ont pas fixé ça comme priorité. Nintendo avait tout inventé. Mais tu sais, dans la technologie, l'important, c'est pas d'inventer. L'important, c'est d'être là au bon moment, avec le bon produit. Et Nintendo s'est vautré avec... c'était quoi la Game VR, là, et le gant? La technologie était absolument pas là à l'époque. Je sais, hein, je l'ai vécu. De toute façon, à ce moment-là, c'est des auteurs de science-fiction qui ont eu l'idée de la VR bien avant. Cette photo, c'est quand même le stress. Ben oui, mais... Alors, soyez honnête après avec vos vies. Quand vous êtes devant un ordinateur... Alors, ça dépend, au boulot et chez vous. Quand vous êtes chez vous, c'est 100% du temps que les gens qui sont autour de vous vous voient devant votre ordinateur quand vous faites, par exemple, des jeux vidéo. Est-ce qu'ils vous regardent 100% du temps? Donc, la vision dystopique, elle vient du regard extérieur de quelqu'un qui utilise un casque VR. Mais combien de gens vont vous regarder quand vous utilisez un casque VR? C'est là, attention à pas tout confondre. Après, on est d'accord, mais là aussi, essayez dans les jours qui viennent, beaucoup vont faire une confusion entre le Vision Pro V1, la version physique du Vision Pro, et le potentiel du marché de l'ordinateur spatial. Cette V1, moi, je pense qu'elle est caca. Trop lourde, bulky. Pour moi, c'est même pas un produit Apple tellement il est compliqué. On n'y est pas. C'est un prototype. Mais je ne me permettrai pas de juger que Apple a tort par rapport à cette V1. Et il va y avoir beaucoup de confusion là-dessus. Beaucoup de gens vont dire « Ouah, c'est trop lourd, je ne supporte pas au bout de 20 minutes. » C'est un flop. Apple va jamais réussir l'ordinateur spatial. Ce sera une erreur et d'aller beaucoup trop vite dans l'interprétation. Moi, si je pouvais le tester, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des trucs dont peu parle. Pour l'instant, les casques que j'ai utilisés, ce qui me dérange presque le plus, c'est un problème de constance de la qualité. Je m'explique. Étant un créateur de contenu, j'ai la tête qui enfle. Tous les créateurs de contenu connaissent ce phénomène. On a la tête qui enfle comme un melon parfois et qui réduit. Hein, vous voyez, on a ce phénomène-là. Non, en vrai, selon la température de la pièce, selon les jours, selon la qualité de vos cheveux, moi, chaque fois que je mets un casque de vision, en plus, selon les lunettes que j'ai, machin, parce que j'ai pas acheté des trucs, hein, donc je les mets au-dessus de mes lunettes, j'ai mis le truc qui permet de voir plus loin, la mise au point est plus ou moins bonne. Ceux qui ont un casque VR comprennent peut-être ce que je dis. Il y a des jours, ça marche très bien, tout est bien aligné, puis il y a d'autres jours, puis alors il y a une saleté dedans. À ce niveau-là d'optique, une goutte de sueur peut gâcher complètement l'expérience. Or, pour un truc qui va afficher de la 8K dans chaque œil, est-ce que Apple va permettre une constance de qualité? S'ils n'y arrivent pas, ça ne sera qu'un gadget. Et donc, je ne crois pas à l'ordinateur spatial. On l'utilisera pour certains trucs. C'est peut-être pas un objet que Apple va tuer, mais ça sera un objet vraiment de niche. Et ils le laisseront à un prix très haut. Par contre, si Apple arrive à délivrer une expérience constante, et notamment d'arriver petit à petit à faire passer le message que ceci, pour certaines personnes, peut remplacer l'achat d'un ordinateur, Donc, créer un ordinateur virtuel dans votre monde réel. Là, ils le baisseront jusqu'à 1500, 1000 et ils essaieront de taper dans le mass market. Donc, on verra. Le casse d'Apple, c'est aussi un signe sur le marché. Non, le vrai signe du marché, en fait, je vais vous dire, pronostic pour ce soir, l'ouverture des ventes américaines. Ils vont être en rupture de stock à toute vitesse. Et du coup, certains vont dire, oh, c'est un succès incroyable. Non, 80 000 Vision Pro, c'est rien pour Apple. Et c'est très peu de stock. Donc, même si en moins d'une demi-heure, il n'y en a plus, je ne serai pas surpris. Voilà. Pour moi, ça ne sera pas une information vraiment utile. Tous les YouTubeurs du monde seront aux USA. Ben non, pas moi. J'irai pas là-bas pour dépenser 3 500 $ parce que je ne les ai pas. L'info peut-être la plus intéressante va être plutôt, moi je vous le dis, hein, les retours dans 6 mois. 3 mois peut-être. Les vidéos les plus intéressantes à regarder, parce que je pense qu'il y aura un wow effect. Et manifestement, la qualité au rendez-vous. Apple crée une expérience qu'aucun autre casque n'est arrivé à produire pour l'instant. Voilà. Les premières vidéos, ça sera waouh, waouh, c'est le futur. Mélanger avec des vidéos qui diront « c'est de la merde, ça va jamais se vendre, c'est un flop » pour faire de la vue. Les vidéos qui m'intéressent le plus, c'est celles qu'il y aura dans 3, 4, 5, 6 mois. Est-ce que j'utilise encore mon Vision Pro ? C'est celles-là qui seront les plus intéressantes. Tu comprends pas l'utilité de la 4K pour les vidéos YouTube, alors les lunettes 8K. Attention, l'œil humain ne fonctionne pas en résolution en 4K, 8K. Le fait que Apple ait mis de la 8K, c'est comme tu auras ton œil très près quand même des écrans qui seront là en fait, là, les deux écrans Sony. Plus tu vas monter en résolution, moins tu verras la résolution en fait. C'est pas comme une télé, en fait. Mais un œil ne fonctionne pas avec des pixels, en fait. Moi, je vous dis, hein, les vidéos les plus intéressantes seront dans 3, 4, 5, 6 mois. Donc, on verra. L'œil humain ne voit pas à plus de 25 FPS. L'œil ne voit pas en FPS. Tout ce qui est optique, affichage optique, télé, ordinateur, c'est basé sur de l'illusion optique. Mais d'un point de vue biologique, un œil ne fonctionne pas en FPS. Vous savez que l'œil humain ne fait vraiment le point que sur 7% de ce que vous voyez. Tout autour, c'est flou, hein. Tout autour, c'est le cerveau qui met des, qui patch en disant, ouais, c'est vaguement ça, là. Blim, 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 blim. Mais la vraie mise au point, elle est que sur 7% de la vision. On sortirait, imaginez, on sort un appareil photo qui fait la mise au point que sur 7%. Oh, le scandale. En fait, un œil humain ne fonctionne pas comme un écran, un appareil photo, un microscope, un... Voilà. Il est F28 tout le temps. Ça, si vous êtes allé chez les ophtalmos, Alors, j'adore, c'est une expérience désagréable, mais rigolote. Quand vous allez chez l'ophtalmo et qu'il vous met les gouttes, là, pour dilater vos pupilles, et qu'après, vous rentrez chez vous, t'as l'impression, en fait, d'avoir mal réglé ta focale. Et, oh, et d'ailleurs, ça permet de comprendre la profondeur de champ. Pour faire des fonds de l'œil, ouais. Ouais, on parle du Vision Pro, là, Guillaume. Non, mais l'œil humain ne fonctionne pas avec des ouvertures, des mégapixels, des fréquences d'image, même des couleurs. Ça ne fonctionne pas du tout comme nos appareils de reproduction de l'image, en fait. Vous n'avez pas un œil. Vous jouez trop à Cyberpunk si vous avez un port USB 3 derrière votre œil. Ben, bionique, ça sera un mélange de technologie et de biologie. Donc, l'œil bionique, oui, mais il y aura probablement un peu de bio dedans, de biotechnologie. Allez, on va tous chez le charcudoc. En vrai, je suis retombé par hasard, parce que j'ai regardé là, et je terminerai là, parce que là, il est tard. Putain, il est 59, il faut vraiment qu'on arrête. On est d'accord que la dernière saison de Black Mirror, elle est nulle. C'est plus du tout Black Mirror, il n'y a plus du tout de dystopie, quoi. Je l'ai trouvé à chier, je le dis. J'ai vraiment pas aimé la dernière saison de Black Mirror. Mais du coup, il m'a relancé sur un épisode de la saison précédente avec les deux potes qui jouent un jeu de combat et ça se transforme en un rapport amoureux entre les deux potes. Ah non, elle est nulle. Non seulement, moi vraiment, il y a même des épisodes, je suis même pas allé jusqu'à la fin, hein, Sir Newt, hein, je te le dis. Hein. J'ai pas compris l'intérêt de la dernière saison de Black Mirror. Parce que les histoires m'ont même pas intéressé. Au-delà de la déception de ne plus avoir des dystopies. Et je me suis dit d'ailleurs, s'ils ont abandonné la dystopie, c'est que comme on vit dans une dystopie, ils arrivent même plus à imaginer les prochaines dystopies. Bref, tout ça pour dire, cet épisode, vous vous souvenez de l'épisode de Black Mirror, où ils se mettent un truc sur la tempe, et ils basculent dans un monde VR pour un jeu de fight. Mais le monde VR est, on va dire, tellement palpable qui... Désolé, je spoil un peu l'épisode pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Mais on n'en est pas encore là. Hein. Remplacer une visière avec un truc qu'on se mettrait sur la tempe, là aussi, hein, y aurait probablement des frayeurs et à raison, hein. Est-ce que ça va pas nous griller le cerveau si on a un truc qui vient donner des informations aux nerfs optiques pour bypasser l'œil? Alors là, je vous dis pas. Là, ça sera un autre débat du, là, ceux qui s'inquiètent de est-ce que ça va pas nous brûler les yeux de mettre ça sur la gueule? Ah, je vous dis pas si on se met une puce sur la tempe, hein. Ah non, le caca de singe, c'est autre chose, Nali Eric. Tu mélanges les concepts. On va pas avoir le temps de réexpliquer le concept de caca de singe. Allez, il faut vraiment que je parte, c'est 10h, je crois qu'on n'a jamais fait aussi tard, mais c'était super intéressant. S'il y en a qui venaient de chez Nignon et qui sont restés, merci d'être resté pendant ce débat passionnant. Vous pouvez nous retrouver le mardi, le jeudi et le vendredi matin sur Twitch pour commenter les news tech. Marion le mardi, moi je suis là le jeudi et le vendredi. Le vendredi, c'est un jour... plus tranquille, plus chill, plus just chatting, comme on vient de le faire. Gros bisous à Nignon, et encore merci pour son raid. Merci à un monde de jeu aussi pour le raid. J'ai pas remercié les derniers contributeurs, je vais le faire avant d'arrêter. Merci Mathieu 404 pour ton 37e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rade, c'est du zbeul. Merci Commander Ham pour ton 11e mois d'abonnement. Merci TMJ pour ton 17e mois d'abonnement. Encore merci Nignon pour son raid, un monde de jeu également pour son raid. Merci Steph Lestat, 36e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du zbeul. Merci Rémi Néo pour ton 32e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci De Sable pour ton Prime, 22e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Renardo Glacial, un grand merci pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Santa Cruz 972, ton 21e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Non, pas encore. Merci Guiwi pour ton 13e mois. T'as cru que t'avais la fève, mais tu l'avais pas. Merci Sultan 97400 pour ton 23e mois d'abonnement. Pas loin de la fève non plus. Merci Docteur Rictus pour ton 13e mois d'abonnement. Je crois que j'ai remercié tout le monde. Si j'en ai oublié, n'en prenez pas ombrage. Ton avis sur cette influence créée par IA qui génère 10K par mois, m'a créé. J'en ai parlé dans un format court extranat sur Instagram, TikTok, de cette histoire. Je crois qu'il y a une partie du marché des influenceurs qui seront remplacés par des IA. Pas tous. C'est là où il ne faut jamais être absolutiste. Tous les influenceurs ne sont pas remplacés par des IA. Certains, oui. Je pense. Allez, on s'arrête là, sinon on s'arrête jamais. J'ai envie de rester avec vous, mais j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Surtout qu'on fait notre déjeuner de fin d'année, en début d'année, aujourd'hui, avec toute l'équipe. Autant vous dire que cet après-midi va peut-être pas être super productive. Donc, il me reste 2 heures pour bosser. On va faire un petit raid. Que font les gens, là? Allez, je vous lance chez Frandroid. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vais même pas promettre qu'on va jouer à Baldur's Gate ce week-end, parce que j'en sais rien du tout. On a encore pas mal de choses à faire autres. Donc, si on peut, peut-être qu'on sera là avec Baldur's Gate 3. Sinon, on se retrouve mardi avec Marion pour le mug. Des gros bisous. Très bon week-end à tous. Il y a peut-être une vidéo qui va sortir ce week-end. Pas sûr. N'oubliez pas d'aller voir la dernière vidéo aussi. Justement, je parle du Vision Pro. Pourquoi Apple fait une énorme erreur avec le Vision Pro ? La réponse va vous surprendre. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.